Épilogue. Leur petit univers est très jeune et son Dieu est encore un enfant. Mais il est trop tôt pour les juger. Lorsque nous retournerons au dernier jour, nous déciderons de ce qui mérite d'être sauvé.
Source. Chapitre 1, le cow-boy des comètes. Pour une description du terrain de chasse du capitaine Chandler, découvert seulement en 1992, voir The Kuiper Belt par Jane Hicks, Lu et David C. Jewitt, scientifique américaine, mai 1996. Chapitre 4, une chambre avec vue. L'idée d'un anneau autour du monde sur l'orbite géostationnaire liée à la Terre par des tours situées sur l'équateur peut sembler complètement fantaisiste, elle possède en fait une solide base scientifique. Il ne s'agit que de l'extrapolation de l'ascenseur spatial inventé par un ingénieur de Saint-Pétersbourg, Yuri Artsoutanov, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en 1982, à l'époque où sa ville portait un autre nom. Yuri faisait remarquer qu'il était théoriquement possible de tendre un câble entre la Terre et un satellite demeurant au-dessus du même point sur l'équateur, ce qui se passe lorsqu'il est placé en orbite géostationnaire. D'ailleurs, c'est là que se tiennent de nos jours la plupart des satellites de communication. À partir de là, on pouvait installer un ascenseur spatial, ou, pour reprendre l'expression pittoresque de Yuri, un funiculaire cosmique, et transporter du fret ou des passagers jusqu'à l'orbite géostationnaire, uniquement grâce à l'énergie électrique. La propulsion par fusée ne serait dès lors plus nécessaire que pour le reste du voyage. Non seulement l'ascenseur spatial supprime les dangers, les bruits et les risques pour l'environnement dus à la propulsion par fusée, mais il entraîne encore une réduction extraordinaire du prix de toutes les missions spatiales. L'électricité est bon marché, il en coûterait seulement une centaine de dollars pour mettre une personne en orbite. Et le voyage aller-retour ne coûterait que 10 dollars environ, car la plus grande partie de l'énergie serait récupérée par le voyage de retour. Évidemment, la restauration et la projection de films pendant le trajet élèveraient le prix du billet. Que diriez-vous d'un voyage aller-retour jusqu'à l'orbite géostationnaire pour 1000 dollars? La théorie est impeccable, mais existe-t-il un matériau suffisamment solide pour transporter du fret et des passagers à une altitude de 36 000 km au-dessus de l'équateur? Lorsque Yuri écrivit son article, une seule substance répondait à ses spécifications plutôt exigeantes. Le carbone cristallisé, plus connu sous le nom de diamant. Les mégatonnes nécessaires à une telle entreprise ne sont hélas pas disponibles sur le marché, bien que, dans 2061 Odyssée 3, j'ai donné des raisons de croire qu'elles pourraient exister au cœur de Jupiter. Dans les fontaines du paradis, j'ai envisagé une source plus accessible, des usines en orbite où l'on fabriquerait des diamants en apesanteur. En août 1992, à bord de la navette Atlantis, se déroula une expérience qui constitue un premier pas vers la réalisation d'un ascenseur spatial. On devait éjecter puis récupérer une charge au bout d'un câble de 21 km. Malheureusement, le mécanisme dérouleur se bloqua au bout de quelques centaines de mètres. J'ai été très flatté lorsque l'équipage d'Atlantis a montré les fontaines du paradis lors de la conférence de presse qu'ils ont donnée en orbite. À leur retour sur Terre, Jeffrey Hoffman m'envoya l'exemplaire dédicacé. En février 1996, eut lieu une deuxième expérience du même genre, qui connut un plus grand succès. La charge fut effectivement envoyée jusqu'à la distance prévue, mais au retour, le câble fut sectionné par une décharge électrique due à une isolation défectueuse. Il est possible qu'en fin de compte cet accident ait été bénéfique. Je ne peux m'empêcher de me rappeler que certains contemporains de Benjamin Franklin ont été tués en tentant de rééditer sa célèbre et dangereuse expérience qui consistait à faire voler un cerf-volant pendant un orage. En dehors des dangers inhérents, le fait d'éjecter des charges hors d'une navette au bout d'un câble ressemble un peu à la pêche à la mouche. Ce n'est pas aussi facile que ça paraît. Mais je ne doute pas qu'un jour on ne parvienne à faire descendre quelque chose jusqu'à l'équateur. Entre-temps, la découverte de la troisième forme du carbone, le Buckminster Fullerène, C60, a rendu plus plausible l'idée d'un ascenseur spatial. En 1990, une équipe de chimistes de la Rice University à Houston a produit une forme tubulaire de C60 qui possède une forme de tension beaucoup plus grande que le diamant. Le responsable de l'équipe, le docteur Smollett, alla jusqu'à dire qu'il s'agissait du matériau le plus dur qui puisse exister et ajouta qu'il rendait possible la construction de l'ascenseur spatial. Nouvelle de dernière heure, je suis enchanté d'apprendre que le docteur Smollett a partagé le prix Nobel de chimie 1996 pour ses travaux. Je voudrais à présent vous faire part d'une coïncidence si troublante qu'on en vient à se demander qui tire les ficelles. Buckminster Fuller est mort en 1983, en sorte qu'il n'a pas vécu assez longtemps pour voir la découverte des Buckyballs et des Bucky Tubes qui lui ont assuré une immense célébrité posthume. Au cours d'un de ses derniers et nombreux voyages à l'étranger, j'ai eu le plaisir de l'emmener en avion avec sa femme Anne faire le tour du Sri Lanka et de lui montrer certains des lieux évoqués dans les fontaines du paradis. Peu de temps après, j'ai réalisé un enregistrement d'extrait du roman sur un disque 33 tours, vous souvenez-vous de ces galettes, qu'a Edmund Tessé 1606, et Bucky a eu la gentillesse d'écrire le texte de la pochette. Celui-ci se terminait par une révélation surprenante qui a fort bien pu m'inspirer pour Star City. En 1951, j'ai conçu un pont annulaire flottant qui devait être installé à la verticale de l'équateur. À l'intérieur de ce pont halo, la Terre continuerait de tourner tandis que le pont circulaire tournerait à sa propre vitesse. J'imaginais une circulation verticale jusqu'au pont, puis autour de celui-ci, et enfin une redescente sur Terre à des endroits choisis. Je suis persuadé que si l'humanité décidait de procéder à un tel investissement, négligeable si l'on en croit certaines prévisions touchant à la croissance économique, Star City pourrait être construite. Une telle construction offrirait de nouveaux styles de vie, donnerait aux visiteurs venus de mondes à faible pesanteur comme Mars et la Lune un meilleur accès à leur planète mère et éliminerait tous les tirs de fusée depuis la surface de la Terre pour les reléguer dans l'espace, leur vraie place. J'espère toutefois qu'il y aura des tirs de fusée anniversaire à Cap Kennedy, de façon à retrouver l'excitation des premiers temps. Il est presque certain que la plus grande partie de cette ville ne serait qu'un échafaudage vide et que seule une très petite partie serait utilisée à des fins scientifiques ou techniques. Après tout, chacune des tours serait l'équivalent d'un gratte-ciel de 10 millions d'étages et la circonférence de l'anneau autour de l'orbite géostationnaire mesurerait plus de la moitié de la distance de la Terre à la Lune. Enfin, un tel espace pourrait abriter plusieurs fois la population du globe. Cela poserait quelques problèmes logistiques particulièrement intéressants que je suis heureux de laisser en l'état comme travaux pratiques pour les étudiants. Pour une excellente histoire de l'idée de tige de haricot, comme d'autres idées encore plus folles, telles que l'antigravité et le gauchissement de l'espace, voir Robert L. Forward, Indistinguishable from Magic, Baer, 1995. Chapitre 5. Éducation. J'ai été sidéré de lire dans les journaux du 19 juillet 1996 les propos du docteur Chris Winter, directeur du laboratoire de vie artificielle des British Telecom. Selon lui, l'appareil d'information et de stockage que je décris dans ce chapitre pourrait être développé dans les 30 ans. Dans mon roman de 1956, La Cité des Astres, je le plaçais dans un avenir éloigné d'un milliard d'années, ce qui témoignait à l'évidence d'un sérieux manque d'imagination. Le docteur Winter estime que cela nous permettrait de recréer une personne physiquement, émotionnellement et spirituellement, et qu'il y faudrait une mémoire d'environ 10 téraoctets, 10 puissance 13 octets, soit moins que les pétaoctets, 10 puissance 15, que j'envisage. Et je regrette de ne pas avoir utilisé pour cet appareil le nom que lui a donné le docteur Winter, le capteur d'âme, nom qui ne manquera certainement pas de provoquer de vifs débats dans les milieux ecclésiastiques. Pour son application au voyage interstellaire, voir la note à propos du chapitre 9. Je croyais avoir inventé le transfert d'informations par contact des paumes de main, tel qu'il est décrit au chapitre 3. Aussi ai-je été très mortifié d'apprendre que Nicolas, Bing Digital, Negroponte et son Media Lab du MIT travaillaient sur cette idée depuis des années. Chapitre 7. Compte rendu. Si l'inconcevable énergie du champ du point zéro, appelée parfois fluctuation des quantas ou énergie du vide, pouvait être captée, l'impact sur notre civilisation serait incalculable. toutes les sources actuelles d'énergie, pétrole, charbon, nucléaire, hydroélectrique, solaire, deviendraient obsolètes et du même coup disparaîtraient nos craintes relatives à la pollution. Toute énergie finit par se dégrader en chaleur. Et si chacun se mettait à jouer avec quelques millions de kilowatts, la planète ne tarderait pas à ressembler à Vénus, plusieurs centaines de degrés à l'ombre. Pourtant, ce tableau présente aussi un côté positif. Il n'y aura peut-être pas d'autre moyen d'empêcher la prochaine période glaciaire qui, sinon, est inévitable. La civilisation est un intervalle entre deux périodes glaciaires, Will Durant, The Story of Civilization. Alors même que j'écris ces lignes, de nombreux ingénieurs de par le monde, et des plus compétents, affirment être en train de capter cette nouvelle source d'énergie. On aura une idée de sa puissance grâce à la remarque du physicien Richard Feynman, qui estime que l'énergie contenue dans un volume égal à celui d'une grande tasse à café est suffisante pour faire bouillir tous les océans de la Terre. Voilà qui donne à réfléchir. Par comparaison, l'énergie nucléaire fait figure d'allumette mouillée. Et je me demande combien de supernovae sont, en fait, des accidents industriels. Chapitre 9. Le pays du ciel. L'un des plus grands problèmes posés par la circulation autour de Star City serait celui des distances. Si l'on voulait rendre visite à un ami vivant dans la tour voisine, et les communications ne remplaceront jamais le contact direct, malgré toutes les avancées de la réalité virtuelle, cela représenterait l'équivalent d'un voyage jusqu'à la Lune. Même avec les ascenseurs les plus rapides, il faudrait des jours et non des heures, ou alors des accélérations insupportables pour des gens habitués à de faibles pesanteurs. L'idée de propulsion inertielle, c'est-à-dire d'un système de propulsion qui agit sur chaque atome d'un corps de façon à ce qu'aucune contrainte ne se produise lors de l'accélération, a été probablement élaborée par le maître du space opéra, E.E. Smith, dans les années 30. Cette idée n'est pas aussi invraisemblable qu'il y paraît, parce qu'un champ de force agit précisément de cette manière. Si l'on tombe librement vers la Terre, sans tenir compte des effets de la résistance de l'air, la vitesse s'accroît d'un peu moins de 10 mètres par seconde. On se sent sans poids, la sensation d'accélération disparaît, alors même que la vitesse augmente d'un kilomètre par seconde toutes les minutes et demie. Et cela reste vrai si l'on tombe dans la pesanteur de Jupiter, plus de 2,5 fois celle de la Terre, voire dans le champ d'attraction infiniment plus puissant d'une naine blanche ou d'une étoile à neutrons, des millions ou des milliards de fois plus puissant. On ne sentirait rien, même si en quelques minutes on approcherait de la vitesse de la lumière. Pourtant, si on est assez fou pour être pris dans les rayons de l'objet qui attire, son champ ne s'exercerait plus de façon uniforme sur toute la longueur du corps et ses formes auraient au fait de nous réduire en pièces. Pour d'autres détails, voir ma nouvelle Neutron Tide dans The Wind from the Sun, déplorable mais qui porte un titre adéquat. Jusqu'à très récemment, on n'avait jamais discuté sérieusement, en dehors de la science-fiction, de la question d'une propulsion inertielle agissant exactement comme un champ de force contrôlable. Mais en 1994, trois physiciens américains se sont penchés sur le problème, en développant les idées du grand physicien russe Andrei Sakharov. L'article de B. Aish, Arueda et H. E. Puthoff, Inertia as a Zero-Point Field Lorentz Force, Physical Review A, février 1994, sera peut-être considéré un jour comme un pas décisif dans ce domaine. En tout cas, pour les besoins de la fiction, telle a été mon attitude. Il traite d'un problème si fondamental qu'il est d'ordinaire tenu pour acquis et qu'on s'en débarrasse d'un haussement d'épaule du style « Ainsi va le monde ». La question que posent les auteurs est la suivante. Qu'est-ce qui donne à un objet une masse ou inertie telle qu'il faut un effort pour le déplacer et exactement le même effort pour lui faire retrouver son état originel ? Leur réponse provisoire dépend du fait si peu connu, en dehors de la tour d'ivoire des physiciens, que l'espace prétendu vide est en fait un chaudron d'énergie bouillonnante, le champ du point zéro, voire plus haut. Les auteurs suggèrent que l'inertie et la gravitation sont des phénomènes électromagnétiques résultant de l'interaction avec ce champ. Depuis Faraday, il y a eu d'innombrables tentatives pour lier pesanteur et magnétisme. Et bien que de nombreux expérimentateurs aient crié au succès, aucun de leurs résultats n'a jamais été vérifié. Pourtant, si la théorie de Aish, Rueda et Puthoff peut être prouvée, elle ouvre la possibilité, même éloignée,
de propulsion anti-pesanteur dans l'espace et la possibilité encore plus fantastique de maîtriser l'inertie. Elle conduirait à un certain nombre de situations intéressantes. En touchant quelqu'un très doucement, il disparaîtrait à des milliers de kilomètres à l'heure avant de rebondir de l'autre côté de la pièce une fraction de milliseconde plus tard. Le bon côté des choses, c'est que les accidents de la circulation seraient virtuellement impossibles. Les automobiles et les passagers entreraient en collision sans dommage à n'importe quelle vitesse. Et vous trouvez que les modes de vie actuels sont trop trépidants ? L'apesanteur qui nous semble banal dans les missions spatiales, et que des millions de touristes goûteront au cours du siècle prochain, aurait semblé magique à nos grands-parents. Mais l'abolition de l'inertie, ou simplement sa réduction, c'est une autre affaire, et elle est peut-être totalement impossible. Mais c'est une idée séduisante, car elle permet l'équivalent de la télékinésie, voyager n'importe où, au moins sur Terre, presque instantanément. Franchement, je ne sais pas comment Star City sinon fonctionnerait. En Finlande, en septembre 1996, des scientifiques ont affirmé avoir détecté une faible réduction de la pesanteur, moins de 1%, au-dessus d'un disque supraconducteur qui tournait sur lui-même. Si cela est confirmé, et apparemment des expériences précédentes à l'Institut Max Planck de Munich ont conduit à des résultats similaires, il pourrait s'agir d'une avancée majeure. J'attends d'autres informations avec intérêt et scepticisme. Dans ce roman, je suis parti de l'idée qu'Einstein avait raison et que nul signal ni objet ne peut dépasser la vitesse de la lumière. À l'instar de ce que d'innombrables auteurs de science-fiction ont tenu pour acquis, on trouve dans de nombreux articles de mathématiques récemment parus l'idée que les autostoppeurs galactiques ne souffriraient pas d'une telle limitation. D'une manière générale, j'espère qu'ils ont raison, mais il semble tout de même qu'il y ait là une objection fondamentale. Si de tels déplacements sont possibles, où sont donc tous ces autostoppeurs, ou au moins les touristes nantis ? Eh bien, on répondra qu'aucun extraterrestre raisonnable ne construira jamais de vaisseau interstellaire pour la même raison qui fait que nous n'avons jamais construit d'avion à charbon. Parce qu'il existe d'autres modes de propulsion beaucoup plus efficaces. Il faut un nombre remarquablement peu élevé de bits pour définir un être humain ou pour emmagasiner toutes les informations que l'on peut acquérir au cours d'une vie. Cette question est exposée par Louis K. Schaeffer dans The Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, 35, numéro 2, juin 1994, pages 157 à 175. Dans cet article, certainement le plus passionnant jamais publié par cette revue, l'auteur estime qu'un pétabit, soit 10 puissance 15, suffirait pour représenter la totalité de l'état mental d'un être humain de 100 ans, doué d'une mémoire parfaite. Même les fibres optiques actuelles sont capables de transmettre cette quantité d'informations en quelques minutes. D'ici un siècle, on jugera peut-être que je faisais preuve de manque d'imagination en affirmant que même en 3001, on ne verra aucun vaisseau interplanétaire du type Star Trek. Si l'on n'a encore aperçu aucun touriste interstellaire, c'est peut-être parce que la Terre ne dispose pas encore d'équipement pour les recevoir. Peut-être approche-t-il en ce moment, lentement. Chapitre 15. En transit sur Vénus. J'éprouve un plaisir particulier à rendre hommage à l'équipage d'Apollo 15. À leur retour de la Lune, ils m'ont envoyé la carte en relief du site d'atterrissage de leur module lunaire, le Falcon. Cette carte magnifique trône désormais dans mon bureau. On y voit les routes empruntées par la rover lunaire au cours de ses trois sorties, dont l'une en bordure du cratère Clair de Terre. La carte comporte la dédicace suivante. Pour Arthur Clarke, de la part de l'équipage d'Apollo 15, avec tous ses remerciements pour sa vision de l'espace. Dave Scott, Al Warden, Jim Irvine. En retour, j'ai dédié Earthlight, écrit en 1953, et dont l'action se déroule dans le territoire que devait parcourir la rover en 1971, de la façon suivante. Pour Dave Scott et Jim Irvine, les premiers hommes à pénétrer sur ces territoires, et pour Al Warden, qui les a regardés en orbite. Après avoir couvert l'atterrissage d'Apollo 15 depuis les studios de CBS avec Walter Cronkite et Wally Schirra, je me suis rendu en avion jusqu'au centre de contrôle de la mission pour assister à leur rentrée dans l'atmosphère et à leur arrivée dans l'océan. J'étais assis à côté de la fille d'Al Warden, encore une enfant, lorsqu'elle a été la première à remarquer que l'un des trois parachutes de la capsule ne s'était pas ouvert. Ce fut un moment angoissant. Heureusement,
Les deux autres parachutes suffirent à la tâche. Chapitre 16. La table du capitaine. Pour la description de l'impact de la sonde, voir le chapitre 18 de 2001, l'Odyssée de l'espace. Une telle expérience est prévue pour la prochaine mission Clémentine 2. Je suis un peu embarrassé en voyant que, dans ma première Odyssée de l'espace, la découverte de l'astéroïde 7794 est le fait de l'observatoire lunaire en 1997. Eh bien, je la déplacerai en 2017 pour mon 100e anniversaire. Quelques heures seulement après avoir écrit les lignes ci-dessus, j'ai eu le plaisir d'apprendre que l'astéroïde 4923, 1981 EO27, découvert le 2 mars 1981 par S.J. Buss à Siding Spring en Australie, avait été nommé Clark, en partie en souvenir du projet Space Guard, voire Rendez-vous avec Rama et le Marteau de Dieu. J'ai été informé avec moult excuses qu'en raison d'une regrettable négligence, le numéro 2001 n'était plus disponible, car on lui avait donné le nom d'un certain A. Einstein. Prétexte que tout cela. En revanche, j'ai été enchanté d'apprendre que l'astéroïde 5020, découvert le même jour sous le numéro 4923, avait été baptisé Asimov. Toutefois, ce sentiment se mêlait d'un peu de peine à l'idée que mon vieil ami ne le saurait jamais. Chapitre 17. Ganymède. Comme je l'explique dans les adieux du présent ouvrage et dans les notes de l'auteur de 2010 Odyssée 2 et 2061 Odyssée 3, j'espérais que l'ambitieuse mission Galiléo vers Jupiter et ses lunes nous fournirait une mine d'informations, dont des images rapprochées, sur ces mondes étranges. De fait, après de nombreux retards, Galiléo atteignit son premier objectif, Jupiter elle-même, et se comporta de façon admirable. Hélas, pour une raison inconnue, l'antenne principale ne se déploya pas et les images durent être renvoyées par une antenne de faible intensité à une allure désespérément lente. Bien qu'on eût réalisé des miracles en reprogrammation pour compenser cet incident, il va falloir encore des heures pour recevoir des informations qui n'auraient mis sans cela que quelques minutes pour parvenir à la Terre. Il faut donc être patient. Et je me trouvais dans la position inconfortable d'avoir à explorer Ganymède en fiction lorsque, le 27 juin 1996, Galiléo commença à le faire en réalité. Le 11 juillet 1996, 2 jours avant que j'aie terminé ce livre, j'ai réceptionné les premières images envoyées par le Jet Propulsion Laboratory. Heureusement, rien jusque-là ne vient contredire mes descriptions. Mais si les images de champs de glace criblés de cratères laissaient brusquement la place à des plages tropicales bordées de palmiers, ou pis encore, à des inscriptions « Yankee go home », alors là j'aurais l'air malin. J'attends avec impatience des images rapprochées de Ganymede City, chapitre 17. Cette formation étonnante est exactement semblable à la description que j'en donne, bien que j'aie hésité à la publier par crainte que ma découverte fasse la une du National Prevaricator. À mes yeux, elle apparaît infiniment plus artificielle que le célèbre visage de Mars et ses environs. Les rues et les avenues mesurent 10 km de large. Et alors, les Mèdes sont peut-être immenses. On découvrira cette ville sur les images de Voyager fournies par la NASA, numéro 20637.02 et 20637.29, ou de façon plus accessible, dans l'ouvrage monumental de John H. Rogers, The Giant Planet Jupiter, Cambridge University Press, 1995. Chapitre 19. Folie de l'espèce humaine. Dans le 22e épisode, Meeting Mary, de ma série télévisée Arthur C. Clarke's Mysterious Universe, j'étaye par l'image les affirmations de Ted Kahn, selon lesquelles la plus grande partie de l'humanité était folle. Et n'oublions pas que les chrétiens ne représentent qu'un tout petit sous-ensemble de notre espèce. Les dévots de la Vierge Marie sont peu nombreux au regard de ceux qui ont adoré de la même façon des divinités aussi différentes que Rama, Kali, Shiva, Thor, Wotan, Jupiter, Osiris, etc. Conan Doyle nous offre l'exemple le plus frappant et le plus pitoyable de ces hommes brillants que leurs croyances ont transformés en fous furieux. Démontrait-on maintes et maintes fois que les spirites qu'ils tenaient en haute estime n'étaient que des charlatans? Il n'en avait cure, sa foi en eux demeurait inébranlable.
Et le créateur de Sherlock Holmes s'efforça même de convaincre le grand magicien Harry Houdini qu'il se dématérialisait pour accomplir ses tours d'évasion, souvent fondés sur des astuces absurdement simples, comme l'aurait dit le docteur Watson. Voir l'essai « The Irrelevance of Conan Doyle » dans l'ouvrage de Martin Gardner « The Night is Large ». Quant aux pieuses atrocités de l'Inquisition, elles font presque apparaître Pol Pot et les nazis comme des enfants de cœur. Voir à ce propos le livre dévastateur de Carl Sagan « Contre les imbécilités du New Age »« The Demon Haunted World ». Je souhaiterais que la lecture de ces deux livres fût rendue obligatoire dans tous les lycées et universités. Au moins aux États-Unis, le Bureau de l'immigration a-t-il pris des mesures contre une forme de barbarie inspirée par la religion. Le magazine Time, Milestones, 24 juin 1996, rapporte que la qualité de réfugié sera désormais accordée aux jeunes filles menacées de mutilation sexuelle dans leur pays d'origine. J'avais déjà écrit ce chapitre lorsque j'ai découvert le texte d'Anthony Storr, Feet of Clay, The Power and Charisma of Gurus, The Free Press, 1996, qui constitue un véritable ouvrage de référence sur ce sujet déprimant. Il est en effet sidérant d'apprendre que, à la date de son arrestation aux États-Unis, un de ses saints escrocs avait accumulé 93 Rolls-Royce. Pi, 83% des gogos américains de ses gourous sont allés à l'université, ce qui confirme la définition qu'on donne souvent de l'intellectuel et que je juge particulièrement savoureuse. Quelqu'un qui a fait des études au-delà de son intelligence. Chapitre 26. Tienneville. En 1982, dans ma préface à 2010 Odyssée 2, j'expliquais pourquoi j'avais baptisé le vaisseau spatial chinois qui atterrissait sur Europe du nom du professeur Tian Shuchen, l'un des fondateurs des programmes chinois et américains de fusées. Né en 1911, Tian a obtenu en 1935 une bourse qui lui a permis de quitter la Chine pour poursuivre ses études aux États-Unis. Il devint l'étudiant, puis le collègue du Hongrois Theodor von Karman, brillant spécialiste d'aérodynamique. Plus tard, professeur de la chaire Goddard au California Institute of Technology, il participa à la création du laboratoire d'aéronautique Guggenheim, ancêtre direct du célèbre Jet Propulsion Laboratory de Pasadena. Après que la Chine eut procédé à un tir de missile nucléaire guidé sur son propre territoire, le New York Times, dans son numéro du 28 octobre 1966, fit remarquer que la vie de Tian était une ironie de l'histoire de la guerre froide. L'article était en effet titré « Le directeur du programme chinois de fusées a été formé aux États-Unis ». Au cours des années 50, il contribua énormément, dans le plus grand secret, aux recherches sur les fusées menées aux États-Unis. Mais alors qu'il voulait rendre visite à son pays, en pleine hystérie macartiste, il fut arrêté sur des accusations truquées. Après une longue période d'incarcération et un grand nombre d'auditions, il fut finalement expulsé vers son pays natal, emportant avec lui ses immenses connaissances. Comme nombre de ses distingués collègues l'ont affirmé à l'époque, ce fut l'une des choses les plus stupides et les plus odieuses qu'aient jamais faites les États-Unis. D'après Zhuang Fengan, directeur adjoint du Comité des sciences et de la technologie de l'Agence nationale chinoise de l'espace, Tian, après son expulsion, a bâti le programme de fusée à partir de rien. Sans lui, la Chine aurait souffert d'un retard de 20 ans en matière de technologie. Et un retard équivalent, probablement, pour le déploiement des redoutables missiles antinavires Silkworm et du lanceur de satellites Longue Marche. Peu de temps après que j'eus terminé ce roman, l'Académie astronautique internationale me fit l'honneur de me décerner sa plus haute distinction, la Von Karman Award, qui devait m'être remise à Pékin. C'était une invitation que je ne pouvais refuser, d'autant que je venais d'apprendre que le professeur Tian résidait désormais dans cette ville. Malheureusement, j'appris à mon arrivée qu'il se trouvait en observation à l'hôpital et que ses médecins n'autorisaient aucune visite. Je suis donc extrêmement reconnaissant à son assistant, le général de division Wang Shouyun, d'avoir transmis au professeur Tian des exemplaires dédicacés de 2010 et 2061. En échange, le général m'offrit le gros volume qu'il avait rassemblé, Collected Works of H.S. Tian, 1938-1956, Science Press, 16, Dongguan Shegeng North Street, Pékin,
100107-1991. C'est un recueil extraordinaire qui s'ouvre par de nombreuses collaborations avec von Karman sur des problèmes d'aérodynamique et se termine par des articles rédigés seuls sur des questions touchant aux fusées et aux satellites. Le dernier article, Thermonuclear Power Plants, Jet Propulsion, juillet 1956, écrit alors que le professeur Tien était toujours virtuellement prisonnier du FBI, traite d'un sujet qui a encore plus d'actualité, bien que peu de progrès aient été réalisés dans ce domaine. Une centrale électrique utilisant la fusion du deutérium. Peu avant mon départ de Pékin, le 13 octobre 1996, j'ai eu le plaisir d'apprendre que malgré son grand âge, 85 ans, et ses problèmes de santé, le professeur Tien poursuit toujours ses activités scientifiques. J'espère qu'il goûtera la lecture de 2010 et 2061, et je me propose de lui envoyer cette odyssée finale en nouvel hommage. Chapitre 36. La chambre des horreurs. À la suite d'une série d'auditions au Sénat consacrées à la sécurité informatique, le président Clinton a signé le 15 juillet 1996 l'Executive Order 13010 relatif aux attaques informatiques contre les composants d'information ou de communication touchant aux infrastructures essentielles, cybermenaces. En conséquence de quoi sera créée une unité de lutte contre le cyberterrorisme qui comprendra des représentants de la CIA, de la NSA, du ministère de la Défense et des agences qui lui sont reliées, etc. Mon picot, nous voici. Après avoir écrit le paragraphe ci-dessus, j'ai eu la surprise d'apprendre que dans les scènes finales du film Independence Day, que je n'ai pas encore vu, des virus informatiques sont également utilisés comme chevaux de Troie. On m'a appris en outre que son ouverture est identique à celle de Childhood's End, 1953, et qu'on y trouve tous les clichés de la science-fiction depuis Le voyage dans la Lune de Georges Méliès, 1903. Je ne sais s'il me faut féliciter les scénaristes pour leur originalité ou les accuser du crime transtemporel de plagiat précognitif. De toute façon, j'ai bien peur de ne pouvoir empêcher M. Dupont-Durand de croire que j'ai volé par avance la fin de Independence Day 4. Un certain nombre de passages ont été repris, en général avec de sérieuses modifications, des romans précédents de la série. De 2001 l'Odyssée de l'espace, au chapitre 18, dans le champ d'astéroïdes, au chapitre 37, expérience. De 2010, Odyssée 2, au chapitre 11, la glace et le vide, au chapitre 36, le feu dans l'abîme, et au chapitre 38, paysage d'écume.